Ah, bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et de Jésus soient sur chacun de nous. Nous en avons besoin, ces moments difficiles, n'est-ce pas? Donc, nous sommes là pour lui donner gloire et nous allons les glorifier en ouvrant ce merveilleux livre qu'il nous a laissé, c'est la Bible. Ce livre qui nous a fait découvrir que nous étions des pécheurs, notre état de pécheurs, mais aussi qui nous a fait découvrir qu'on a un très grand un merveilleux Sauveur qui a tout quitté pour que nous puissions vivre heureux et que nous puissions regarder l'espérance qui est devant nous. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous ouvrir, inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, le verset 26. On va pas lire tous les chapitres, mais je vous donne un peu les contextes de ces chapitres et concentrer le message dans le verset 24. Chapitre 26. Voilà, il y a Paul qui a été incarcéré et il se trouve devant Agrippa pour le juger, n'est-ce pas? Parce qu'il a été emprisonné. Donc, il se tourne vers là et Paul, il leur parle. Il lui parle de ce qu'il était auparavant, de ce qu'il est maintenant et de ce qu'il croit. Il parle justement de la résurrection. Hein? Il croit fermement, il donne son témoignage de sa conversion et toutes ces choses-là jusqu'à arriver au verset 21, on peut le lire, jusqu'au verset 24. Il est toujours devant Agrippa, hein, et une fois qu'il a donné son témoignage, qu'il a dit sur les choses sur lesquelles il croit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, il dit à Agrippa, et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité les premiers d'entre les morts, ils annonceraient la lumière au peuple et aux nations. Il annonce encore la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au verset 24, c'est le verset sur lequel il va se dérouler mon message. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Et Paul lui répond, verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul leur répondit, « Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Amen. Voilà, Agrippa, il a entendu le message de Dieu. Le témoignage de quelqu'un qui s'est tourné vers lui et quelle a été sa réponse. Tu es fou, Paul. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Ne répondez pas tous ensemble, hein. Normalement, on dit, est-ce qu'il y a des chrétiens? On dit oui. À écouter Festus, à écouter le monde, nous sommes fous. Pourquoi? Parce que nous avons mis toute notre confiance en quelqu'un auquel eux, ils ne croient pas. Mais vous savez, l'état du monde aujourd'hui, dans quelle situation il se trouve. Et je vais vous lire dans quel état c'est le monde aujourd'hui. Et c'est là on peut le trouver dans 2 Timothée, chapitre 3. Paul, il met en garde Timothée, et nous aussi. Et vu la situation du monde dans lequel on est, c'est ici, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Donc, mettons, combien d'années? Il y a très, très, très longtemps, n'est-ce pas? Mais si on lit bien tout ce que Paul il dit, on voit la société d'aujourd'hui. Voilà ce que Paul il dit à Timothée. Et à nous, pour nous montrer le monde dans lequel il vivait. Et le monde dans lequel on vit, c'est exactement pareil. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles ou fous, hein, c'est le même mot, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un autre monde. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous nous en sommes détournés. Nous nous en sommes détournés. Et dans 2 Corinthiens, Paul, il répète exactement la même chose au verset chapitre 2 Corinthiens 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et le monde. Nous ne nous confions pas dans les richesses du monde, car les choses passent. Mais nous nous confions en Dieu. Et nous ne sommes pas fous. Ceux qui sont fous, c'est eux. Et ce matin, j'aimerais bien vous montrer, à travers ce chapitre de 2 Corinthiens 5, qu'est-ce que c'est que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est que nous avons comme assurance, comme espérance, ce que nous avons en Jésus-Christ. Et Paul ici, il énumère tout. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est pas moi qui vous dis des mots qui viennent de moi-même, mais c'est la Bible la Bible. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais vous lisez la Bible? Oh, je l'ai lu, mais j'ai arrêté parce que je n'y comprends rien. Je lui ai dit, vous savez, hein, moi, je suis le contraire de vous. C'est que je comprends bien ces choses-là. Parce que c'est vrai, lorsque Dieu il me dit, il n'y a pas un seul juste. Ça, bien sûr qu'on ne peut pas comprendre si on n'appartient pas à Dieu, n'est-ce pas? Ça nous arrivait un jour qu'il y avait quelqu'un ici à une étude biblique. J'ai eu le malheur de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens bons. Il n'y a pas de gens justes. Mais il m'a fait un scandale. Je dis, mon frère, c'est pas contre moi que tu dois t'en prendre, mais c'est contre la Bible. C'est Dieu qui dit, il n'y a aucun juste. Et c'est lui qui a raison. Et Dieu, il nous montre dans 2 Corinthiens, ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, tout ce que nous avons par et à travers Jésus-Christ. Et si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous n'êtes pas fou. N'écoutez pas ce que les gens y disent. Aujourd'hui, les gens, ils se confient dans les possessions, dans l'argent, dans les moyens. Mais Jésus, il a dit aux riches, vous en souvenez ce qu'il lui a dit? Le riche, il a dit, mes greniers sont remplis. Ah, repose-toi, mon âme. Et Jésus, il a dit, fou, insensé, aujourd'hui même, ton âme, il peut être réclamée. Et dans ce chapitre-là, le Seigneur, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour continuer à cheminer et à lui faire confiance. Donc, dans 2 Corinthiens 5, hein, regardez le premier verset. Il nous dit quoi, le premier verset? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qu'est-ce que c'est qu'ici Dieu il dit aux croyants, aux chrétiens? Que nous avons une assurance. Et cette assurance est vivante. Si cette tente dans laquelle nous habitons là, notre corps, notre terre, s'il s'arrête, si nous mourons, nous avons une demeure éternelle dans les cieux. Et c'est une demeure qui n'a pas été construite par un homme. Il peut arriver une intempérie, une tempête et tout ça, il peut le détruire. Mais ce que Dieu il a préparé pour ceux qui lui font confiance, l'éternel ne bouge pas. Voilà ce que Dieu il promet à tous ceux qui lui font confiance. Une assurance du croyant. Nous avons cette assurance. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit de nous assurer pour toute chose. Et ça, c'est exactement la même chose. Des gens, ils disent, oui, mais il n'y a rien après la mort. Et s'il y a quelque chose? Et s'il y a quelque chose? Assure-toi. Comment avoir cette assurance? En nous tournant vers le Seigneur. Car ce n'est pas n'importe qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Et nous savons que Dieu, il ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. Nous lui faisons confiance. Car nous avons constaté, depuis que nous l'avons accepté, depuis qu'il dirige nos vies, que nos vies, il marche mieux. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance qu'il est là. Je suis tous les jours à côté de vous. Je suis parmi vous. Il est même là. On ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Et je suis sûr qu'il passe chaise, par personne. Il met sa main sur notre épaule ou sur notre tête. Et il nous dit, ne crains pas. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis là, je te protège, je te dirige. Je suis ton bouclier. Mais ça, c'est l'assurance du croyant. Du croyant. Regardez les versets 2 à 4. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Le désir du croyant, c'est quoi? Notre désir, c'est quoi? C'est que le Seigneur revienne et qu'il nous prenne avec lui. Mais si le Seigneur il tarde, et notre vie, il va être coupé, nous allons mourir, car tous doivent mourir. Alors, le désir du croyant, c'est d'être avec le Seigneur. Paul, il avait dit, vous en souvenez, hein? Je préfère être avec le Seigneur, mais je sais que j'ai du travail ici à faire. Et alors, le Seigneur, il me reste, mais je préfère de loin être avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que si on est auprès du Seigneur, c'est fini cette vie de souffrance, des peines dans lesquelles nous sommes. Et ça, c'est le désir. Il dit, si cette tente, encore une fois, si notre vie ici-bas, notre souhait, c'est d'être avec le Seigneur, car c'est là qui est le vrai salut. Et c'est le désir de tout croyant. Est-ce que désirer d'être auprès de celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés, est-ce que c'est être fou? Non, C'est justement le contraire. C'est un peu comme dans les familles. On aimerait bien constamment avoir notre père, notre mère à côté de nous, parce qu'on sait qu'ils nous ont aimés, qu'ils nous ont aimés, qu'ils nous aiment. Mais à un certain moment, la vie s'arrête. Et c'est là aussi le désir de nous qui sommes des croyants, dans nos familles, nous espérons que tous, ils se donnent au Seigneur. Car si cette vie, cette tente, il s'arrête, dans laquelle nous gémissons, il s'arrête, nous allons rejoindre notre Seigneur et nous allons retrouver ceux qui sont partis avant nous. Le Seigneur, il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai. C'est ça le désir du croyant, d'être auprès du Seigneur, d'être auprès de celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie, qui des riches est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. À chacun de nous de penser à ces choses-là. Est-ce que nous sommes fous pour cela? Au contraire. Et il continue le verset 6 à 8, regardez. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ici, il est clair, nous sommes toujours pleins de confiance. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Dans ces moments difficiles, dans lesquels avec ces virus et toutes ces choses-là, il y a des gens qui sont dans la dépression totale. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur d'attraper ces virus parce qu'on a une famille et donc c'est vis-à-vis des autres aussi et de nous aussi. On aimerait continuer à vivre pour voir nos enfants, nos petits-enfants, avoir encore des enfants. On aimerait voir tout ça. Mais nous sommes confiants parce que nous savons que, comme il est dit dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, il campe autour de tous ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons Dieu, bien sûr que nous pouvons tomber malades. Mais si nous arrive à les pires et de partir, nous gémissons, il est dit, nous gémissons. C'est quelque chose que nous souhaitons de tout notre cœur, partir auprès de celui qui nous a aimés. C'est ça qui nous dit ce verset-là. Pourquoi? Parce que nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Il y a les gens aujourd'hui qui croient que cette terre, elle est sortie comme ça, je sais pas d'où. Mais, et ça, c'est l'intelligence humaine même. Car si on réfléchit un peu, on peut se dire, mais comment? Tu me parles d'un Dieu qui, il dit et la chose arrive. Que la terre soit remplie d'abeilles, c'est pas possible. Et dans Hébreux, il nous est dit que nous croyons que Dieu a créé les ciels et la terre par la foi. Nous croyons dans la toute puissance de Dieu. Et nous ne nous confions pas dans notre propre intelligence. Parce que notre intelligence est limitée. Il est limité, tandis que l'intelligence de Dieu est illimitée. Voilà pourquoi nous croyons à ces choses-là. Et nous faisons confiance en Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, encore une fois, déjà, ils se confient dans les richesses, dans les possessions. Mais vous savez, toutes ces choses-là, ils vont passer. Lorsqu'on meurt, où est-ce qu'ils vont toutes les choses que nous avons gardé? C'est comme on en parle tellement là. Si Johnny l'aurait su, est-ce qu'il arriverait à sa famille une fois mort à cause des possessions? Il serait dans la peine, n'est-ce pas? Toutes ces choses qu'il y a dans le monde, ils vont passer, ça ne compte rien. Dieu ne va pas nous dire, Aldo, combien de maisons tu as, combien d'argent, combien de comptes en banque. Et il ne veut rien savoir de ça. Mais la chose qu'il me dira, c'est, Aldo, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ, qui est venu te sauver, qui a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu sais, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'étais dans une église baptiste. J'étais à des réunions, j'ai donné ma dîme, mais ça ne me regarde pas. C'est ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? C'est ça que le Seigneur veut savoir. Et il nous a dit, nous sommes pleins de confiance. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à Jésus-Christ. Car ce n'est pas d'un jour au lendemain qu'on voit quelqu'un qu'il devrait nous haïr pour ce que nous avons fait. Quelqu'un qui quitte la gloire pour venir ici et mourir pour moi, pour vous, des êtres qu'on ne mérite rien. La seule chose que nous méritons, c'est le châtiment. C'est ce que je disais au prédicateur, au pasteur missionnaire qui est venu à la maison. Ben, j'ai dit, mais je vais à l'église et tout ça. Il a dit donc, tu mérites quelque chose. Ben oui, il m'a fait lire Romain. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu es pécheur? Ben oui, oui. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? La mort? Tu mérites une seule chose, la mort. Mais le verset, il continue. Car la grâce vient de Dieu. Dieu, il te fait grâce si tu te tournes vers Jésus. Sommes-nous fous pour cela? Sommes-nous fous pour cela? Regardez le verset 9. C'est la confiance du chrétien. Hein? 6 ou 8. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. Ça, c'est l'ambition du chrétien. L'ambition du chrétien. Quelle est notre ambition d'être agréable à Dieu? De faire les choses que Dieu nous dit dans sa parole. Et lorsqu'on ouvre la parole à Dieu, il nous dit ce que nous devons faire. Ô homme, je te fais connaître ce que le Seigneur attend de toi. Ah, mais je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Non, oh homme, je t'ai fait connaître. Comment on le sait? Mais il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Et on découvre tout ce que Dieu, il demande. Voilà pourquoi il dit, en tant que chrétien, nous nous efforçons, nous faisons tout notre possible pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Et pas accomplir la volonté de l'homme. Pierre, il avait dit, le souverain sacrificateur, il a dit, bon, on vous interdit de prêcher dans ce nom de Jésus-Christ. Et Pierre, il a dit, mais juge-en toi-même. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui croyons en lui, est-il plus juste d'obéir à toi ou d'obéir à Dieu? Voilà. Pourquoi est-ce que nous obéissons au gouvernement? Parce que le gouvernement, il a été mis là pour nous diriger. Jusqu'à quand il ne nous donne pas des choses interdites, des choses qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu? Voilà. Lorsque le gouvernement, il s'est dit pour l'avortement et tout ça. Voilà. Ça, c'est contre la volonté de Dieu. Hein, on se préoccupe qu'il y a 16 000 ici, 15 000 là, mais vous savez qu'il y a 280 000 avortements dans le monde. 280 000. Mais les gens ils disent, ah, oui, mais c'est mon corps, je fais ce que j'en veux, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit enfant qui va naître? Est-ce que c'est sa faute? Ah, la liberté. Quelle est la vraie liberté aujourd'hui? C'est de suivre Dieu. C'est ça la vraie liberté. Car nous savons qu'auprès de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. David, il a dit, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à la vieillesse, je n'ai jamais rien manqué. J'ai jamais rien manqué. Voilà pourquoi ici, c'est, comme il dit, c'est l'ambition. Nous devons faire tout pour faire plaisir à Dieu et pas faire plaisir aux hommes. Car c'est là notre mission. Nous avons un Dieu et nous devons le suivre en toutes choses. Et si nous faisons ça, regardez le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, c'est la récompense. Si nous faisons tout ce qui est agréable à Dieu, si nous nous efforçons de faire tout ce qui est agréable à Dieu, il y aura, oui, on passera tous devant le tribunal de Christ. Mais ce n'est pas un tribunal pour condamner. Parce que nous, chrétiens, c'est lorsque nous passerons à ce tribunal de Christ qui va se passer une fois que nous avons été enlevés. Pourquoi nous passons là? Parce que le Seigneur, il doit nous présenter au Père. Et alors, pour présenter au Père, il présente les gens purs, complètement. Et c'est là que nous allons passer au jugement, le feu. Pas le salut, parce que si on est là, au tribunal de Christ, c'est qu'on est sauvé. C'est là que le Seigneur, il va juger tous les biens ou le mal que nous avons fait ici-bas. Si nous avons fait les biens, le Seigneur, il va nous récompenser. Et nous avons fait des choses aussi qui ne sont pas bien. Et ces choses-là, ils vont fondre. Ils vont être jugés et il n'y aura aucune récompense. Alors, lorsqu'on va nous présenter devant le Seigneur, si nous ne nous efforçons pas de faire tout ce que le Seigneur nous demande, qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur lorsque nous allons nous présenter devant lui? La main vide devant toi. Voilà. Nous devons offrir au Seigneur, nous efforcer d'accomplir toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour chacun de nous. Vous savez, le matin, la première chose qu'on doit faire, c'est pas oh, vite vite le café. Hein. La première chose qu'il faut faire, c'est Seigneur, montre-moi ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Tout de suite, tourner notre pensée auprès de Dieu, car c'est ça qui compte. Le petit déjeuner, les croissants et toutes ces choses-là, c'est rien, ça, l'habillage et tout ça, c'est rien. Mais demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi, Seigneur? Et surtout, aide-moi à les accomplir. Car si nous ne les accomplissons pas, la chose que le Seigneur a préparée, et quelqu'un d'autre va les faire. La seule chose, c'est que nous n'allons pas recevoir la récompense que le Seigneur a préparée. Et qu'est-ce que nous allons donner au Seigneur? À ce tribunal de Christ, vous savez bien qu'il va y avoir la distribution des couronnes. Le Seigneur, il va donner des couronnes. Voilà, bon et fidèle serviteur, voilà. Dirige 10 villes, dirige 5 villes, dirige 2 villes. Et lorsque nous recevons ces couronnes, c'est vrai que nous sommes des rois, des sacrificateurs, mais qui c'est qui mérite de recevoir toutes ces choses-là? C'est le Seigneur. Alors ces couronnes, ces récompenses que le Seigneur nous a données, on les retire de notre tête et on les donne au Seigneur en lui disant, tu es digne, tu es seul digne de recevoir toutes ces choses-là. Voilà, le Seigneur, pas seulement il nous sauve, il nous accorde le salut, il est constamment avec nous, mais en plus il nous donne des récompenses. Quelle grâce, la récompense, hein, les récompenses du croyant. Versets 11 et 15. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Ici, on voit la persuasion du croyant. Nous sommes persuadés, nous sommes pressés par l'amour de Christ. En tant que croyant, le Seigneur, il a dit d'aller et d'apporter cette bonne nouvelle. Et le Seigneur, il donne ce qu'il nous a donné à nous. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, qu'est-ce que c'est qu'on dit? On disait, écoute, le Seigneur, il m'a donné ça et ça et ça, ça. Et il nous a assuré que si tu te tournes vers lui, il te donnera la même chose. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Et c'est cette persuasion-là que nous devons avoir. Mais il y a ces mots-là qui nous font un peu « L'amour de Christ me presse », il a dit Paul. Il n'avait qu'une seule chose dans sa tête, Paul. Préparer, évangéliser, témoigner, aller de sauver des âmes. Il ne s'occupait pas d'autres. Il voulait même aller dans des endroits où le Seigneur il ne voulait pas. Il avait décidé de passer par un endroit, je ne m'en souviens plus. Et alors c'est l'Esprit qui lui apparaît et lui dit « Non, tu ne vas pas là-bas. Tu vas. Mais je viens l'évangéliser, Seigneur. Non, tu ne vas pas là-bas. » Il n'avait qu'une seule chose dans sa tête. Étienne, il s'est trouvé dans la Samarie, un endroit où il évangélisait. Il y a des gens qui croyaient. À un certain moment, l'Esprit le prend, paf, il l'amène au désert. Il dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Je suis en train de travailler, de convaincre les gens, et tu m'amènes dans le désert. Dieu connaît toutes choses. Et il l'a amené là au désert, pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de lire la Bible et qui ne comprenait pas. Et il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne qui me l'explique? Voilà, il est monté, il s'est assis à côté de lui. Il lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ, du salut, du baptême, de la repentance. Et il passe sur un lac, je ne sais pas, un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque, il dit, mais alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Tout de suite, parce qu'il a compris, parce qu'il a été enseigné. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait des chrétiens pour se faire baptiser, il faut presque les supplier. L'eunuque là, on lui a expliqué ce que le Seigneur il veut. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux. L'amour de Christ, est-ce que cet amour de Christ nous presse? Au travail, bien sûr, si on est en train de travailler, il ne faut pas évangéliser. Hein? Ou dans les transports, je ne sais pas là. Il me presse. Pourquoi? Parce que nous savons que bientôt le Seigneur va revenir. Et si on est parti, et si on n'appartient pas au Seigneur, c'est le jugement qui va tomber, même dans nos familles. Les vendredis, on prie beaucoup pour dans nos familles. Il y a des enfants, des petits-enfants qui ne sont pas chrétiens. On aimerait bien que toute notre famille, cette famille que le Seigneur nous a donnée, il puisse être unie afin que nous puissions nous élever tous lorsque le Seigneur il va revenir. Voilà pourquoi on prie ardemment pour cela, pour que la famille soit unie. Et il nous a dit que lorsque le Seigneur Jésus il va revenir, nous serons tous dans la joie. Mais il va y avoir aussi un peu de tristesse. Parce que on s'élève, on regarde. Ah, mon fils, il n'est pas là. Ah, ma femme, il n'est pas là. Mon oncle, il n'est pas là. Et s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Est-ce que cet amour nous presse? Les gens, ils s'étonnent que dans des discussions, hein, à certains moments, nous mettons le nom de Christ dedans. D'ailleurs, les gens, ils nous connaissent tellement, ils nous disent, mais... Tu vas être là, mais tu ne parles pas de Christ. Hein? Est-ce que nous sommes fous pour cela? Non, c'est parce que nous voulons les biens des autres. Voilà pourquoi c'est vraiment la persuasion des croyants. Nous avons à nous cette persuasion à apporter, que ce n'est même pas nous qui persuadons, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Des gens, ils disent, même des gens, je l'ai entendu, « Ah, tu as de la chance, toi, que tu as la foi. » Mais ce n'est pas une question d'avoir la foi, c'est une question de vouloir. Si on veut, le Seigneur nous donne. Car ce n'est pas nous qui persuadons, bien sûr, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Car il viendra et il persuadera les gens des jugements, des péchés, des compagnies. Mais nous sommes les instruments de Dieu. Voilà pourquoi les gens ils nous prennent un peu pour des fous, comme il a fait Festus. Paul, tu es fou. Tu vas me persuader de devenir chrétien. Et quelle a été la réponse de Paul? Il a dit, mon ami, pas seulement toi, mais tous ceux qui sont ici, qu'ils soient comme moi, la seule exception, pas avec ces chaînes, mais avec cette liberté que Christ nous donne. Et pour terminer au verset 20-21, et il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, nous avons une mission en tant que chrétiens. Et quelle est cette mission? Ben, il nous l'a dit. Hein. Nous sommes des ambassadeurs. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Dieu nous envoie dans le monde. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Nous sommes des ambassadeurs. Nous n'avons pas à apporter notre propre message, mais nous devons apporter le message de Dieu. Tous les ambassadeurs aujourd'hui, ils ne parlent pas pour eux-mêmes, mais ils apportent le message du président de la République. Et nous, c'est pareil, nous sommes des ambassadeurs et nous devons porter le message des dieux. Et Paul, il va beaucoup loin et il dit, nous vous en supplions, pourquoi? Parce que son cœur est rempli d'amour, son cœur comme celui de Dieu, pas au même point quoi, mais il désire que tous ils soient sauvés, c'est le désir de Dieu. Que tous arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Et nous devons, c'est notre devoir de persuader les gens, de leur dire, non, on n'est pas fous. On est des ambassadeurs de Dieu et nous apportons un message de paix, d'amour. Un message d'un Dieu qui, au lieu de nous châtier, de nous faire du mal, parce que nous avons péché contre lui, il fait grâce. Il attend qu'une seule chose, qu'on se tourne vers lui. Et c'est à ce moment-là, une fois que c'est tourné vers lui, que tout devient clair dans notre propre vie. Voilà, ça c'est une réponse qu'on peut donner à ceux qui nous disent « Vous êtes fous, vous êtes timbrés là. » Non, nous sommes ceux qui ont une vraie intelligence, ceux qui ont une vraie sagesse, parce qu'ils pensent à ce qui va leur arriver. Que le Seigneur nous aide à voir ces enseignements au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions les répandre. Car en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des fous, mais nous sommes des sages, nous sommes des enfants de Dieu. Et un jour, Dieu va revenir nous prendre et nous serons éternellement avec lui. Amen.